Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute des échos du Grand Saint-Barthélemy en direct depuis le comité Maméga sur Radio Galère 88.4 FM en DAB+ et partout dans le monde sur radiogalère.org et en podcast. Vous êtes en compagnie de Guy et de moi-même Gary à l'animation, à la technique notre ami Sidi, fidèle technicien de Radio Galère, et bien sûr un clin d'œil à Saïda qui osera prendre le micro un jour, on le sait. Pour réagir en direct à l'émission, un seul numéro, 07 49 53 87 44. Je répète, 07 49 53 87 44. Comme chaque émission des Échos, celle d'aujourd'hui est particulière. Son titre, à la rencontre de l'association Passerelle. Implantée au cœur du Grand Saint-Barthélemy, Passerelle occupe une place essentielle, un espace de dialogue, de mémoire et de transmission. Dans ce territoire où se croisent les générations, les cultures et les histoires venues du monde entier, l'association recueille, valorise et transmet des récits, particulièrement ceux de nos jeunes, qui font l'identité et la richesse du quartier. Avec nos invités, nous allons explorer l'histoire de l'association pour la promotion de Passerelle, ses actions, les voix qui la font vivre et la manière dont elle renforce les liens dans un contexte parfois fragile, souvent inspirant, mais toujours profondément vivant. Première pause musicale en mémoire de Mehdi Kessassi et en solidarité avec sa famille. Lâche ta calache, une chanson écrite par notre ami Daniel Baume, paroles et musique. Daniel, pour celles et ceux qui s'en souviennent, est l'auteur et compositeur d'une chanson devenue mythique dans l'inconscient collectif du peuple marseillais et plus particulièrement des quartiers nord pour mémoire. Nous sommes les enfants des quartiers nord, que nous écouterons en seconde pause musicale.
Clé de balle t'emportera un jour dans sa folle spirale. Alors jette à la poubelle tes désirs cruels, recrache la haine que tu romages et lâche ta calage. Celui qui tue l'oiseau ne tuera pas son champ. Nous les enfants, notre pouvoir est grand. On ne sait pas où nous emmène cet ADN qui nous entraîne. Nous les enfants, notre vie est sacrée. Nous tenons dans nos mains le monde de demain. Nous ouvrirons l'espace au-delà des frontières. Il y a trop à faire sur cette terre. Je ne suis qu'un gamin, mais ma voix porte loin. Au-delà des nuages, par-delà les orages. Trêve de malheur, je rêve de douceur. Trêve de douleur, j'ai droit au bonheur.
Rebonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Galère 88.4. Avant d'entrer dans l'histoire de Passerelle, chaque invité va maintenant se présenter. Et ensuite, nous remonterons ensemble aux origines de l'association.
Je m'appelle Anne-Marie Tagawa, je suis aujourd'hui retraitée, de l'action sociale sur ce territoire, mais je continue à y être engagée. Et j'ai été surtout sur la création de l'association Passerelle et du dispositif d'intervention en 86. Voilà. On parlera de ça après, si vous voulez.
Alors, je suis Amine Imel, directeur de l'association Startup, qui a été accompagnée par Madame Tagawa et l'association Passerelle pour nos activités socioculturelles dans le territoire.
Et du coup, moi, je suis Adem Boumadi, animateur référent. Je travaille surtout sur le pôle animation dans l'association Passerelle, du coup. Enfin, Startup, pardon.
Alors.
Bonjour, je m'appelle Lola et je suis stagiaire avec. Enfin, je suis la stagiaire d'Adem.
Voilà. D'accord. Voilà. Alors, quels besoins précis du quartier ont motivé la création de l'association pour la promotion de Passerelle?
Alors, je vous cache pas que je suis ravie de l'histoire parce que ça fait partie de l'histoire du quartier et en même temps, il y a peu souvent eu un éclairage sur ce qu'était cette association et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, je me suis replongée quand même un peu, même si j'avais été dans l'histoire de cette association, je me suis replongée dans les textes fondateurs, je vais dire. Merci. On est en 86, année dans laquelle, déjà, il y a foisonnement d'actions sur les territoires depuis les années 80. Il y a beaucoup de projets qui se montent. Et on est plusieurs structures, que je citerai après, à se dire que sur la question de la jeunesse, il y a besoin d'une réponse concertée et coordonnée. Parce que chacun d'entre nous, éducateurs, il n'y avait pas les médiateurs à l'époque, mais animateurs dans les centres sociaux, les associations de jeunes, font chacun dans leur coin un petit bout d'action en direction de la jeunesse. Et nous sommes certains à penser que ça vaut peut-être le coup qu'on se rencontre, qu'on se questionne sur qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour les jeunes, et puis surtout à se dire est-ce qu'on peut monter ensemble une action particulière. Donc à l'époque, nous nous réunissons sous l'égide du centre social Picon, ça va faire tomber de leur chaise certaines d'entre nous autour de la table, et qui à l'époque était géré par une association qui s'appelait l'Alpha. Et on se réunit sur plusieurs jours de formation avec les animateurs de ce qu'on appelait à l'époque l'ASCQB, l'association du quartier de la Busserine, qui est devenue aujourd'hui le centre social Agora, les éducateurs de la Fédération des clubs d'équipes de prévention, qui est devenue la DAP aujourd'hui, le centre social Picon, le centre social des Flamands, qui renaissait un peu, l'association de jeunes Picon, qui n'existe plus aujourd'hui, et la mission locale, dont l'antenne était aux Flamands, et comme une des premières missions locales en France sur ce territoire. Et on fait le constat, les uns et les autres, que ce dont il y a peut-être besoin par rapport aux jeunes, plus que nos actions un peu découpées, c'est un lieu d'accueil spécifique qui permettrait d'accueillir de façon, on disait, généraliste les jeunes sur l'accès aux droits et sur leur la capacité à recevoir des propositions de projets, etc. Donc on devient très vite, on se constitue d'abord collectivement avant de devenir une association. On est dans des périodes un peu mouvementées de la politique de la ville, dont les chefs de projet sont à l'époque assez proches du terrain. Et il y a une chef de projet à cette époque qui s'appelle Marina Marine, qui n'est plus là aujourd'hui, qui nous dit, je veux bien vous aider dans ce projet, trouvez-vous des locaux, et puis après on voit ce qu'on peut faire. Donc à l'époque, il y a une éducatrice de la FCEP qui s'appelle Marie-Geneviève Martin, qui nous a quittés il y a quelques mois, et moi-même, et on cherche des locaux, et Marie-Geneviève tombe sur ce local au bâtiment E8, qui était une cave, pour mettre les scooters, les motos, etc. Et on décide, face à la non-réponse d'HMP de nous donner ces locaux, de les occuper. C'est-à-dire qu'en fait, on squatte les locaux. On s'installe, on nettoie et on s'installe à l'intérieur. On se ferait peut-être virer Manu Militari aujourd'hui, mais à l'époque, c'était encore un peu toléré. Voilà. Et on se constitue en association, qui s'appelle donc l'Association pour la promotion de Passerelle. L'idée étant de soutenir et de mettre en place des projets qui répondent à ce besoin pour des jeunes et des adolescents d'être reconnus dans leurs droits et surtout de pouvoir avoir une promotion sociale de se qualifier, d'avoir un peu cette réponse. On crée l'association Passerelle avec comme condition dans les statuts le fait que l'association est composée de chacune des structures fondatrices. C'est-à-dire Mission Locale, l'association de jeunes Picon, le Centre Social Picon, la SCQB, la DAP 13. Et on commence à fonctionner avec un lieu d'accueil, en fait, qui est rapidement associé aussi au CIDJ, puisqu'on demande d'avoir la documentation décentralisée du Centre d'information jeunesse, dont peut-être que nos collègues plus récents ont trouvé des vestiges dans les placards. Et on fonctionne en permanence, avec des temps d'accueil dans la semaine où les jeunes peuvent venir volontairement, deux en soirée, en grande soirée, et deux en matinée, où des jeunes peuvent venir rencontrer des adultes, ce qu'on appelle les adultes référents. Quand je dis de façon généraliste, c'est qu'il n'est pas question de venir en prenant un rendez-vous un mois à l'avance ou dire c'est pour ça que je viens. C'est si on a besoin d'un lieu d'écoute et de rencontre, on le met en place. Et ça a fonctionné donc jusqu'à il y a... Quand c'est que vous avez pris le relais dans le local ?
Après 3 ans. 2004 ans.
Ah déjà ?
2020.
Donc jusqu'en 2020, où ce local servait tout le temps en même temps de lieu d'accueil, de lieu de projet, puisque certaines de nos activités, etc., étaient... Pourtant, on a subi des travaux pendant une période qui ont réorganisé complètement les locaux, et on a bénéficié depuis sa création de financements dans le cadre de la politique de la ville, qui nous ont permis de mettre en place les actions, les projets, l'accueil, l'information. Volontairement, il n'y a jamais eu de salariés dans cette association, c'est-à-dire que les seuls salariés étaient les personnes des partenaires mis à disposition. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas créer à cette époque un autre lieu qui venait en concurrence avec d'autres lieux d'accueil pour jeunes dans le territoire. Et voilà, ça a été assez rapidement un lieu un peu de foisonnement, de contact pour beaucoup de jeunes qui venaient nous rencontrer là, qui venaient pour discuter, d'autres pour monter des actions et des projets. Et il y a 6 ans de ça, ça ne correspondait plus, dans une quand 6 ans, peut-être un peu plus, on va dire à peu près 8 ans, on a fait le constat que ça ne correspondait plus tellement à ce que souhaitaient les partenaires. C'est-à-dire que chaque partenaire s'était un peu replié sur ses propres prérogatives, sur ses propres lieux d'accueil. Et du coup, ce lieu Passerelle devenait juste le lieu d'accueil de Anne-Marie Tagawa et Marie-Geneviève Martin. D'ailleurs, les jeunes l'appelaient souvent comme ça, chez eux. Quand je suis partie à la retraite, il y a une maman qui m'a dit « Mais je croyais qu'Anne-Marie Tagawa, c'était le nom du centre social. » Et non, c'était que le mien. Et donc,
Cet essoufflement là que du coup vous avez constaté, il remonte à quand ?
Je dirais une dizaine d'années, okay. Où la dynamique partenariale interassociative ne fonctionnait plus. Donc on s'est dit, est-ce qu'on a intérêt à maintenir une structure qui correspond plus à ce pourquoi ça avait été une forme d'essoufflement ? Et donc on a décidé de non pas d'abandonner les locaux. On a continué les actions encore pendant un moment, notamment les forums pour les droits des jeunes à l'époque. Mais on a désinvesti un peu les locaux parce que ça ne correspondait plus tellement à ce besoin. Et par contre, il y avait tout un tas de jeunes qui avaient été bénéficiaires de cet accueil, qui eux ont voulu se monter en collectif jeune, qui continue à exister aujourd'hui. Et ces jeunes-là qui grandissaient disaient « Mais nous, on veut prendre la relève. » C'est-à-dire qu'on veut en fait être formés et accompagnés pour prendre la relève de Passerelle. Donc c'est ce qu'on a fait. On a dissous l'association telle qu'elle était avant, c'est-à-dire avec la représentation de chacun des acteurs, et on a intégré totalement les jeunes dans les statuts et le fonctionnement de Passerelle, c'est-à-dire que c'est eux aujourd'hui qui sont membres du conseil d'administration et avec qui on repense les actions, mais qui pour nous ne se déroulent plus dans le local à côté, parce que la plupart des actions correspondent à des temps forts où pas mal de jeunes sont réunis et donc on est accueillis pour ça dans les locaux du centre social Agora.
Donc vous avez dissous l'ancienne association Passerelle et créé une nouvelle entité.
En fait, on n'a pas dissous l'association, j'utilise un mauvais terme. D'accord. On a transformé complètement les statuts.
D'accord.
Okay. Voilà. Et on a restructuré l'association qui est restée association pour la promotion de Passerelle mais qui est devenue... voilà. Les locaux, à cette époque-là, il y avait un besoin. Aurélie Moulin nous avait formalisé. Aurélie, elle a été longtemps dans le conseil d'administration de Passerelle aussi. Hein. Donc, ayant besoin de locaux par rapport aux ateliers, ben, elle nous a fait la demande de pouvoir utiliser ces locaux, ce sur quoi on a été tous d'accord. Et donc, du coup, pendant un moment, on a un peu cohabité. Et puis, en fait, on a petit à petit laissé le fonctionnement des ateliers prendre leur place dans les locaux de Passerelle. Et aujourd'hui, la question du relais total de Passerelle par start-up se pose.
Il faut, d'accord,
qu'on, voilà,
okay,
faut qu'on avance.
Et comment s'est matérialisé, mis en place, du coup, ce temps de transition entre votre génération et cette nouvelle génération qui avait envie d'autre chose, ou en tout cas de reprendre des choses en main? Comment la transmission s'est faite? Comment aussi vous vous êtes assuré de laisser une place à la nouvelle vision qui arrivait? Comment tout ça s'est passé?
Alors, je disais que ça s'est surtout passé en transition avec Aurélie Moulin. Qui a formalisé le besoin et la demande, et surtout nous, je dirais, à l'époque et certainement dans Passerelle, peu de gens connaissent, on se connaît physiquement parce qu'on a eu à se rencontrer, mais on n'a pas formalisé de temps où on s'est dit comment Passerelle peut être prise en relais par il y a eu le collectif jeune dans lequel ne sont pas d'ailleurs nos collègues, c'est d'autres jeunes complètement qui ont fait, et eux occupent les locaux actuellement, donc c'est une ressource en fait, c'est un peu comme si on leur prêtait ou attribuait les locaux. On s'est juste dit qu'il fallait qu'on officialise ça, notamment vis-à-vis du bailleur, en faisant que le relais total du local Passerelle soit pris en relais par start-up.
Donc à l'heure où on parle, c'est vous, start-up, qui occupez l'association Passerelle. C'est pour ça que je vous vois tous les mercredis. Très bien. Merci, on va passer à la première pause musicale. Nous sommes Les Enfants des Quartiers Nord, écrit par Daniel Baum et interprété par Les Enfants des Quartiers Nord.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Il y avait des vaches et des cochons.
Il y avait des vaches et des cochons.
À l'endroit où se trouve
Vaches et cochons, fermez forêt.
Pierrette
certains, certaines d'entre vous, et pour toi aussi Saïda, cette chanson évoque beaucoup de souvenirs. Pour toi aussi Jean-Pierre, il me semble, est-ce que tu as envie de nous parler de cette chanson?
Alors,
avec le micro.
Alors bonjour, donc en 82 j'étais surveillant au collège Albert Camus, qui était un ancien commissariat de police à l'époque. Et donc Daniel Baum était professeur de musique là-bas, c'était l'époque de Madame Caratini, Monsieur Baum, donc des professeurs qui travaillaient là-bas. Et donc j'ai vu naître un petit peu cette chanson au moment où Daniel donnait ses cours de musique. Donc et cette chanson est devenue très célèbre. Hein, elle a fait le tour de Marseille, mais pas que. En France, dans toutes les colonies, on chantait les enfants des quartiers noirs. Voilà, de Marseille.
Très bien. Et du coup, pour faire un petit lien du coup avec le comité Maméga, Issa qui avait la place de Saïda juste avant qu'elle arrive, a été un de ces jeunes qui a chanté dans la chanson. J'arrive un mercredi matin, il est posé sur l'ordinateur devant, il est en train de l'écouter, et là il me dit, tu sais, moi j'ai fait partie des enfants qui ont chanté cette chanson, ouais. Voilà. Donc peut-être que t'as vu Issa petit aussi à l'époque, du coup.
Ouais, comme quoi.
Voilà. Donc on va revenir à l'histoire de l'association Passerelle. Alors vous me dites si j'ai tout bien compris. Donc il y a eu un moment du coup de renouveau générationnel qui à terme arrive à Startup. Mais du coup avant vous, il y a eu le collectif jeune qui a travaillé avec l'association Passerelle, une forme de transition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus du coup? Qui est toujours là?
Alors sur le collectif jeune, déjà je voulais rendre un peu hommage à tous les présidents de Passerelle, parce que le premier président, ça a été Jacques Marty, qui est décédé aujourd'hui et qui a accordé une importance énorme à tout ce qui était l'action en direction de la jeunesse sur le territoire. Et il a été président de l'association pendant de nombreuses années. Et ensuite, il y a eu Annick Chaille.
Comment s'appelait le premier président?
Jacques Marty. Et ensuite, il y a eu Annick Chaille, qui était directrice de la mission locale. Pareil, qui est devenu comme l'idée des premiers statuts, c'était que les présidents soient tournants. C'est-à-dire que chaque fois, il y ait une des structures qui propose quelqu'un pour prendre la présidence de Passerelle. Donc Annick Chaille, ensuite il y a eu une personne de la DAP 13, et puis Karima Berich, hein, que vous connaissez bien ici et qui a été aussi très partie prenante de ce dispositif d'action. Voilà. Dire par rapport au collectif jeune que on voyait au fur et à mesure dans nos actions le fait de se dessiner que des jeunes qui étaient adolescents au moment où ils étaient touchés par les actions de Passerelle, dont je parlais des actions, c'était le conseil de jeunes, c'était les forums en direction de la jeunesse, l'accueil. Il se trouve que pas mal de ces adolescents, petit à petit, on les sentait devenir de plus en plus acteurs, c'est-à-dire que dans nos actions, il disait, mais nous, on peut s'occuper de ça, on peut animer des ateliers, on peut faire la com sur le quartier, on peut, etc. Et donc, c'est mis en place. C'était en plus un peu ma façon de fonctionner en tant qu'éducatrice, parce que j'étais éducatrice à la DAP 13. C'était de faire un peu un système d'échange entre leur participation à des actions sur le quartier et des actions, des activités de loisirs. Et donc, tout un noyau et un groupe, c'est vraiment... a grandi avec ça, et au moment où on a dit mais en fait Passerelle en tant que telle, c'est, ça correspond plus à grand chose par rapport à ce que c'était au début, ils ont dit mais nous on prendrait bien la relève. En fait, relève, c'était un terme pour ceux aussi qui étaient sur le quartier, qui avait beaucoup été repris par Daouda, qui faisait partie de ce groupe là qui aujourd'hui est éducateur à la DAP 13 d'ailleurs. Et qui à l'époque était un de ceux, il n'était pas le seul, filles et garçons, qui prenaient en charge de plus en plus d'actions et qui disaient mais il faut qu'il y ait une relève sur ce quartier. Donc il y avait souvent des enfants qu'il avait eu en atelier aussi, écriture, etc., qui disaient mais nous on est la relève. Voilà. Donc ce terme a été un peu repris, et ce qu'on a dit, certains partenaires, entre autres nous au niveau de la DAP 13 et le Centre Social Agora, c'est que pour qu'ils prennent une vraie relève, il fallait qu'ils soient formés à ça. Donc c'était pas uniquement la question des actions, mais c'est aussi qu'est-ce que c'est une association, qu'est-ce que c'est de passer à un fonctionnement de groupe, à un fonctionnement associatif, les questions de responsabilité, comment on est sur le quartier entre partenaires, etc. Et on a fait des journées de formation, ça a été des grands moments ça, qui étaient beaucoup autour de jeux de rôle, de mise en situation, etc., pour qu'ils se forment même à connaître ce qu'était une association, des demandes de subvention, quand tu vas voir un financeur, comment ça se passe en fait, qui tu représentes, etc. Et à la suite de ça, du coup, la proposition a eu lieu de prendre les rênes au niveau des statuts et du fonctionnement des actions. Donc, ils se sont constitués en disant collectif jeune, sachant qu'une de leurs actions, et je ne vais pas prendre la parole tout le long, ça a été l'action citoyenne qu'ils ont menée sur la question du vote, qui a été leur inscription dans un challenge citoyen au niveau national. Et puis après, ils ont pris la relève surtout sur les conseils de jeunes qui se déroulent régulièrement sur des thématiques de société, qu'ils animent complètement. Voilà. Alors, le nombre d'actions est réduite, mais par contre, c'est eux qui les portent totalement. Moi, je ne suis qu'une aide au niveau de l'écriture des dossiers et de temps de réflexion avec eux, mais autrement, c'est eux qui portent. Et le jour où ils ne voudront plus porter, ben, ça s'arrêtera, en fait.
D'accord. Et du coup, bah, là, c'est un petit peu plus clair, cette question de la transmission passerelle collective jeune. Oui. Et est-ce que, du coup, au niveau de start-up, du coup, la rencontre avec start-up, est-ce que ça s'est passé rencontre collective jeune avec start-up ou c'est plus passerelle start-up, enfin, comment start-up est arrivé dans cette histoire, comment c'est ancré dans cette histoire?
Vous voulez sa parole?
Ouais, je peux l'expliquer. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, j'ai été accompagné par une personne qu'on a citée, qui est Madame Moulin. Donc c'est la présidente de l'association Startup. Et c'est une personne qui a été très active sur le territoire et également...
présidente et fondatrice.
Et fondatrice également. Par le biais en fait du centre social et du coup de Madame Moulin que en fait on a été accompagné par mon groupe de jeunes et moi, et de fil en aiguille, donc j'ai été pris en service civique, puis ensuite on a développé un dispositif d'accompagnement pour les jeunes collégiens, mais certains types de jeunes collégiens, c'était les enfants à besoins particuliers. Parce que pour la plupart, ils ne sont pas inscrits dans les centres sociaux, ils ne sont pas inscrits dans tous les dispositifs qui sont généralement mis en place.
Besoins particuliers, est-ce que tu peux
Alors en fait, ce sont des enfants qui ont des freins environnementaux ou bien des freins de type handicap. Et c'est en tout genre. Voilà, ça peut être par exemple être monoparental, voire sans parents, des handicaps moteurs, des handicaps un peu plus... difficile à déceler, voilà. D'ailleurs, Madame Moulin est professeure au collège Édouard Manet et elle est en charge des enfants à besoins particuliers au collège.
Notamment tout ce qui est en lien avec la neuroatypie.
Exactement. Et en fait, nous, à la base, on vient de la musique, donc on s'est spécialisé dans le milieu social et à la pédagogie à travers des ateliers d'écriture qu'on faisait à l'Agora. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que les besoins de nos jeunes étaient un peu plus pousser que simplement avoir un temps pour pouvoir apprendre à écrire, à faire de la musique. Donc, on a voulu pousser un projet et c'est grâce à Madame Tagawa qui a été contactée du coup par Madame Moulin pour pouvoir avoir un espace pour pouvoir accueillir du coup nos jeunes tous les mercredis après-midi et les petites vacances. Et du coup, étant donné que l'activité du local, du moins, était un peu, il y en avait moins. Donc voilà, elle nous a fait le don de pouvoir travailler, de pouvoir accueillir nos jeunes au local de la passerelle. Et ça fait depuis maintenant 5 ans voilà, qu'on accueille une vingtaine, 20, 25 jeunes à peu près tous les mercredis et 3 jours par semaine pendant les petites vacances. Et le but en fait, donc on les accueille à partir de midi, on mange ensemble, on fait de l'aide de devoir, donc on travaille sur les cours, et puis ensuite on part soit sur des activités culturelles, soit sur des activités sportives. Et l'idée en fait, c'est de les laisser en activité pour le mercredi après-midi, sans qu'ils aient, une partie de mon groupe en fait qui ne rentrait pas chez eux le mercredi, et du coup en fait qui traînait dans le quartier. Étant donné qu'il y a eu une petite phase un peu compliquée dans le quartier, c'était important pour nous de voir de moins en moins de jeunes traîner dans le quartier. Donc voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça que notre accueil s'est développé, s'est solidifié aujourd'hui. Et c'est comme ça que voilà, on a recruté ADEM.
Il y a combien de temps ?
Un an et demi.
Un an et demi, ouais. Voilà.
Alors, est-ce que tu peux préciser de quel territoire sont les enfants ? Parce que quand tu parles du quartier, c'est quel
c'est
quartier
quoi. Alors, principalement, on est sur le 14e. Ça déborde un peu sur le 13e et sur le 15e côté Gèze. Alors, la plupart de nos jeunes, ils habitent soit à Picon, soit au Maille, soit à Fontvert, soit à la Busserie. Là, on est sur 80% de nos jeunes. Nous, en fait, l'intérêt qu'on a, c'est qu'on travaille avec les jeunes des deux collèges, donc de Pitéas et d'Édouard Manet. Donc, pour la plupart, ils sont dans le secteur parce que il y a une sélection, enfin voilà, pour pouvoir être dans les collèges. Et on travaille spécifiquement avec les jeunes de 9 ans jusqu'à 15 ans. Et au-delà, en fait, on a un autre dispositif d'accompagnement, mais cette fois-ci pour les parcours pro, l'insertion professionnelle, pour les 16-30 ans, qui ne se réalise pas à la passerelle parce que c'est un peu compliqué d'organiser ça ici, mais qui se réalise dans nos locaux, dans le centre-ville de Marseille. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Du coup, je me posais une question, parallèlement à tout ce que vous racontez. Alors, Anne-Marie, tu disais tout à l'heure qu'il y avait un point d'honneur quelque part à ne pas à ce qu'il n'y ait pas de salariés, de personnes employées dans l'association. Est-ce que tu pourrais nous préciser le sens de cet engagement et peut-être aussi est-ce que vous avez eu des difficultés à tenir cette ligne? Et j'aimerais savoir du coup comment vous êtes positionné par rapport à cette question.
Alors la décision de ne pas avoir de salariés, elle est liée par rapport à l'histoire dont je parlais tout à l'heure, au fait que c'était un dispositif interpartenarial, c'était la volonté vraiment forte de Passerelle. Donc Passerelle n'existait que parce que des partenaires s'étaient mis ensemble sur l'action direction de la jeunesse, et donc ça passait par le fait que des salariés de ces associations soient présents dans les actions, soient présents dans le local et assurent la pérennité de ces actions. Je ne parle pas de personne, je parle de salariés de ces structures, sachant que Marie-Geneviève et moi, on a été par contre dans la continuité, puisqu'on est resté tout le temps sur le terrain, mais ça a changé au niveau de certaines structures. Et donc, on s'est dit que si on créait des postes de salariés, on pouvait facilement en venir à créer une nouvelle structure, je disais tout à l'heure, qu'elle se situe en concurrence avec les autres. Et voilà, il fallait qu'on sous-pèse l'efficacité de nos actions et du partenariat par le fait que chaque partenaire était présent. Ce dont je disais tout à l'heure, que ça a été de plus en plus, c'est ça qui s'est de plus en plus atténué au fur et à mesure, chaque structure se repliant sur son propre fonctionnement, en fait. Et quand tu disais est-ce que ça a apporté des problèmes, je dirais que ce qui nous avait le plus amusé, c'est que nous, par exemple, on disait qu'on ne voulait pas de poste de salarié, mais que pendant une période, ça serait moins le cas aujourd'hui, les institutions nous disaient, mais pourquoi vous n'avez pas de salarié? Pourquoi vous ne créez pas de poste?
Ça leur paraissait suspect. Enfin, qu'est-ce que...
C'était relatif. Hein,
c'est une vision qu'ils ne comprenaient pas.
Il y a eu une période où il y a eu, par exemple, ici, là, on a ce qu'on appelait à l'époque un poste B, c'est-à-dire un poste d'animateur jeunesse, de prévention, qui était en fait porté par le département. Et il y a eu une période où il y a eu une vacance sur ce poste. Pendant une période, il n'y avait plus personne, pour des raisons multiples, mais ce n'est pas le lieu de l'émission. Et le département, du coup, cherchait à repositionner un poste d'animateur dans une des structures en disant qui peut être le porteur. Et nous, sur le territoire, on se concertait pour dire auprès de qui ce poste doit exister et qu'on continue à assurer pour le département que sur la prévention jeunesse, il y ait vraiment quelque chose qui soit reconnu par eux, par nous, etc. Pareil sur les accompagnateurs à l'emploi, hein. J'ai pris le poste d'animateur prévention. Mais on a connu une époque où il y avait tous les dispositifs, PLI, Pôle 13, où il y avait des accompagnateurs à l'emploi. Pareil, les structures cherchaient à qui attribuer ces postes. Mais à chaque fois, on recevait des coups de fil en disant « Vous ne voulez pas prendre ces postes ?» Et nous, on disait « On n'a pas vocation à ça. » Il y a suffisamment de structures à l'époque, et encore aujourd'hui, il y a 3 centres sociaux. Il y a des structures qui sont assez importantes et qui travaillent déjà sur l'accompagnement à l'emploi. Donc, proposez-leur. Mais comme Passerelle avait un peu cette reconnaissance, le fait qu'il y avait plusieurs partenaires qui étaient dans le fonctionnement, on se disait, bon, ben là, on va leur proposer d'occuper cette mission qui n'était pas forcément celle qu'on avait au départ. Voilà. Donc on a vraiment essayé de se tenir à ça.
Voilà. Et du coup, si je comprends bien, Passerelle avait vraiment cette ambition avant tout fédératrice,
oui.
Autour
oui.
d'une action qui allait fédérer
complètement.
Tout le monde. Et tu parlais tout à l'heure du coup de ce moment où tout ça s'est soufflé, notamment parce que chaque structure s'est entre guillemets repliée sur ses propres actions. Est-ce qu'il y a des facteurs externes qui ont... Parce que tu disais tout à l'heure que ça s'est passé il y a une dizaine d'années, donc on peut imaginer que ça s'est à peu près passé en même temps. Est-ce qu'il y a des facteurs externes, des besoins qui se sont créés, qui ont fait que, du coup, les structures se sont repliées et n'ont pas pu continuer à prolonger cette énergie fédératrice sur le temps? Qu'est-ce qui s'est passé structurellement, sociétalement?
Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Le fait que... Alors, mission locale, c'était clair. La mission locale, qui était au départ vraiment un lieu de proximité. Ils avaient leur antenne aux Flamands, mais toutes leurs actions, elles étaient vraiment tournées sur le territoire. Petit à petit, c'est devenu une institution, d'abord qui couvrait l'ensemble du 13-14, mais dont la mission et les actions se sont beaucoup plus éclatées, dispersées, et avaient moins cet ancrage de proximité. Voilà. Alors qu'au départ, c'est pour nous, c'était le partenaire qu'on allait voir quand il y avait des choses à créer. Moi, Saïda, qui ne veut pas parler, mais qui me racontait une action, je ne me rappelais plus qu'elle était dans ce groupe. On avait monté une action pour permettre à des jeunes filles de réussir leur examen dans le cadre d'un projet professionnel, financé par la direction de l'emploi et de la formation professionnelle à l'époque, qui était porté par certaines d'entre nous et pour lequel on avait du répondant. C'est-à-dire qu'on avait en face de nous des structures qui disaient « Oui, oui, c'est votre rôle parce que vous êtes... Pour les autres structures, bon, l'AJP a fermé ses portes. Saïda aussi, elle se rappelle de ça. L'association de jeunes Picot a fermé ses portes pour des problèmes qui étaient, voilà, qui ont été, ils sont très longs à expliquer. Et ensuite, les trois centres sociaux, les animateurs jeunes, se sont beaucoup repliés sur leurs propres prérogatives, sur leur territoire. Entel au Flamand, Entel à Picot, Busserine, Entel à Fontvert à l'époque. Ils se sont repliés sur leur propre truc pour développer leurs actions propres. Deuxième argument, élément, qui est le mien, mais que j'ai toujours dit aux autres structures, qui fait moins plaisir, mais qui est à mon avis dans la réalité des choses, c'est qu'il est plus facile des fois de vivre seul que mal accompagné. Et dans le social, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu te mets en partenariat pour mener une action, tu joues la transparence, la loyauté, la fidélité. C'est des règles qui sont très importantes et qui, quand petit à petit, tu ne te sens pas bien là-dedans ou que tu n'as pas quelque chose tu mènes une action ou tu travailles sur une expertise au niveau des jeunes, la transparence, c'est quelque chose qui est très important. De dire aux autres ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, pourquoi tu ne le fais pas et pourquoi on a besoin de le faire ensemble. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir envie de jouer cette carte-là.
Voilà. Donc, de manière presque... philosophique, on peut dire que c'est l'histoire de toutes les aventures humaines. Au final, c'est se rejoint à un moment donné, on est aligné à un moment donné, et la vie et les obstacles font qu'à un moment donné, on ne l'est plus. Quoi. Et vous, du coup, comment vous vous positionnez sur cette question, justement, d'avoir des employés, pas avoir des employés? Du coup, quelque part, c'est presque aussi une question de...
Nous, c'est un peu spécifique, parce que c'est vrai qu'on a deux volets. Donc on a le social qui est porté par du coup Aurélie Moulin, qui est, on va dire, acteur de ce territoire, donc du 14e arrondissement. Mais en fait, on est présent à travers la culture dans tous les territoires de Marseille, parce qu'on réalise des ateliers qu'on appelait Studio Mobile, et on est également des professionnels de la musique. Donc moi, à titre personnel, on a un studio d'enregistrement, par exemple, dans le sud, dans le centre-ville de la ville, studio professionnel haut de gamme, qui nous permet également de ne pas compter à 100% sur les financeurs publics, parce qu'il y a une réalité de terrain ici, et on ne cherche pas à concurrencer. On cherche à apporter des possibilités aux personnes qui vivent ici. Donc... techniquement, on n'a pas de financement à proprement parler pour le territoire. Nous, en fait, c'est plutôt sur des financements globaux. Par exemple, on travaille avec le service civique et on s'occupe de la promotion du service civique dans la ville. À côté de ça, on travaille avec les services jeunesse, de la vie associative aussi de la ville de Marseille, parce qu'on fait des journées de l'engagement dans le centre-ville, ici, un peu de partout. Et en fait, on a, élargi le champ pour pouvoir également avoir des moyens de recruter. Parce que nos activités aujourd'hui, on en a quand même pas mal. On va dire que presque 50% de nos activités sont ici. Mais hormis comment dire, les services civiques qu'on a, les membres bénévoles qui ont toujours été actifs comme la présidente et Adem qui est salarié ici, on n'a pas spécialement de comment dire. Voilà, il n'y a pas de volonté particulière à aller demander des gros financements. Nous, on a étudié combien ça nous coûte de faire la passerelle. Entre nos activités semi-marchandes, je dirais, et les projets, projets un peu annexes, subsidiaires, hein, donc pas les financements de fonction. Par exemple, on n'a pas de fonctionnement.
D'accord.
Voilà, on est vraiment sur des appels à projets auxquels on répond, pour des projets très spécifiques, généralement liés à la culture. Parce que ça, par contre, c'est notre domaine de prédilection. Et en fait, c'est comme ça qu'on a réussi à se solidifier, je dirais. Et également, si on n'avait pas un local comme la passerelle aujourd'hui, ça aurait été très compliqué de pouvoir se développer aussi dans ce territoire. Parce qu'il est déjà garni en projets sociaux, à mes yeux. Il y a beaucoup de... Pardon. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de structures. Donc voilà, il faut la jouer fine. On est là pour s'accompagner. On n'est pas là pour prendre le financement de l'autre ou quoi. Mais voilà, on n'a pas de... on a 3 salariés, nous, voilà, dans notre structure. Donc on a une secrétaire administrative. On a moi, en l'occurrence, qui m'occupe de la direction d'une manière plus globale. Et on a Adem qui va s'occuper des animations. Ensuite, on a des animateurs, mais ce sont des animateurs spécialisés. Donc en fait, quand on développe un projet, par exemple Studio Mobile, on a l'animateur qui vient expressément pour cette action, quoi. Donc voilà, on a essayé de bien agencer les choses pour qu'on n'ait pas de besoins trop énormes, en fait, parce qu'on va pas se mentir, des salaires ça coûte super cher. Ouais. Et c'est très compliqué à tenir, surtout si on n'a pas une trésorerie assez large. Mais nous, aujourd'hui, pour pouvoir se stabiliser, c'est vrai que sans le marchand, sans nos activités à côté, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué.
Moi, ce que j'entends du coup quand je t'entends parler, c'est que en fait, vous avez une dans votre rapport aux institutions et dans votre manière de dérouler vos actions. Moi, ce que j'entends vraiment, mm-hmm. c'est qu'il y a une forme de maturité du coup qui est à la fois le fruit de vous, de ce que vous avez observé, mais du coup aussi de ce qu'une association comme Passerelle a pu vivre comme obstacle et comme voilà, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu héritier de toutes ces difficultés et que c'est du ça. Coup vos modèles économiques sont réalistes mais aussi à la mesure du coup de ce que vous avez pu voir et apprendre de l'expérience des associations comme
c'est
Passerelle.
C'est exactement ça, et je rajouterai même une phrase que du coup Aurélie Moulin dit souvent. Mmh. Nous, si on y arrive, c'est parce qu'on passe par la fenêtre.
Très bien. Voilà.
Je pense que c'est très représentatif. C'est que voilà, on. C'est ça. Voilà, c'est que voilà, nos jeunes aujourd'hui sur le territoire, il n'y a pas de financement à proprement parler pour ce genre de jeunes, où il n'y a pas de financement à proprement parler. Comment dire? Pour ce genre d'action, en fait. Donc, on a les centres sociaux qui font très bien leur travail. On a les acteurs connus du territoire, comme la DAP, comme pas mal de structures. Mais nous, aujourd'hui, on est vraiment dans la brèche. On a un endroit où le financeur n'imagine peut-être même pas certaines situations qu'on peut vivre. Donc, enfin, voilà.
Est-ce que tu dirais pas que ça, c'est parfois, et je pense qu'on peut même en discuter avec Jean-Pierre, ça, c'est parfois un peu problématique qu'on arrive à faire des grandes choses avec des bouts de ficelle, et donc, du coup, que les financeurs se disent, bon, bah, en fait, pourquoi vous voulez plus?
Regardez ouais, ce que marche. Vous allez. ça tient bien, là.
Moi, je trouve déjà que c'est une. Tu parlais de maturité, je trouve que ils ont bien analysé la situation, et nous, en tant que. Je fais un petit rappel par Bodiensoul, on était une association dans les quartiers nord, on avait 250 élèves par an pendant plus de 30 ans.
Wow.
Donc, je ne sais pas si vous voyez le nombre de personnes qu'on a touchées, des enfants, des adolescents, des adultes. On a eu des projets extraordinaires à New York, à Saint-Pétersbourg, à Berlin, en Angleterre. Bref. Mais le drame, c'est que à l'inverse de vous, on avait donc une compagnie professionnelle, donc qui, avec nous faisions des spectacles, mais nous ne vendions rien en dehors de, donc nous étions en demande en permanence donc de financement avec un repérage socio-cul et non pas culturel à part entière, parce que justement on avait des engagements très forts sur le quartier. Et vous, vous avez tout compris, puisqu'au niveau des financements, vous êtes dans un espace intermédiaire, vous faites du social là où le social n'est pas présent, et vous vendez vos propres produits, vous avez une certaine autonomie, ouais, et c'est ce qu'il faut arriver à faire, parce qu'il n'y a pas de réelle volonté politique pour régler les problèmes des quartiers. Donc on le sait, quand on voit la logique des financements, on s'aperçoit que les dés sont pipés, quoi, hein, puisque au moment où on reçoit les financements, les actions sont quasiment terminées. Mmh. Donc le système est vicié, on va dire. Donc je pense que vous avez bien compris, bien analysé la situation, et que c'est un très bel exemple à suivre. Et d'ailleurs, j'avais dit, je termine là-dessus, j'avais dit à Jean-Marc, cette association qui est à côté, Passerelle, il y a plein de jeunes, tu sais pas ce qu'ils font. Concrètement, ce serait peut-être bien de les contacter et de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. On voit des jeunes en permanence, et des jeunes pas forcément, parce qu'on connaît les enfants du quartier, hein, proximité. Oui. Et donc je trouve que votre projet est super.
Merci. Ça, et puis même j'ai envie de dire que votre projet est d'autant plus super qu'il est transversal, c'est-à-dire que moi, qui suis pas forcément quelqu'un qui vient du quartier, mais j'ai une association, j'ai d'autres projets à côté, et je suis content de vous rencontrer dans le cadre de cette émission, parce que je me dis, ok, il faut que je les contacte, parce qu'on a peut-être des choses à faire ensemble quand je vous entends parler. Et là aussi où je trouve que je trouve votre positionnement très juste, c'est que justement, en fait, cette question de la marchandisation, vous auriez pu la prendre à 100%, c'est-à-dire on est 100% marchand, on vend des choses et c'est ça notre modèle économique, mais en fait la marchandisation sert le social aussi dans votre cas, et ça on est dans ce monde, on vit dans ce monde avec les réalités libérales de ce monde, ouais. Mais malgré tout il y a une vision révolutionnaire, je trouve, dans
c'est ce qu'on essaye de faire, et surtout on s'est rendu compte que malheureusement compter sur les financeurs publics, c'est une misère, c'est horrible, c'est beaucoup de promesses, beaucoup d'attentes, et j'ai l'impression qu'il y a un manque de considération. Moi, je viens aussi. Enfin, ce qui a fait notre développement, c'est que je dirais, c'est le savoir-faire de la présidente et mon savoir-faire dans l'entrepreneuriat.
Oui, donc j'aimerais bien que tu peut-être te dises deux mots.
Et en fait, le souci qu'on a, c'est que j'ai l'impression qu'on a des financeurs qui ne comprennent pas la différence entre une comptabilité et une trésorerie. Et en fait, la réalité aujourd'hui, elle est que c'est très compliqué dans les structures sociales de pouvoir avoir une trésorerie stable, à part de, si on n'a pas une banque qui nous suit, si on n'a pas quelque chose de très concret. Et du coup, voilà, nous, moi je suis ingénieur du son de métier, j'ai commencé comme ça. Donc j'ai la possibilité, avec aussi, on est trois ingénieurs du son dans l'association, justement de pouvoir faire tourner le studio. Sans que ça nous incombe beaucoup de pertes à titre personnel,
parce que c'est vous les exécutants,
parce que c'est nous, exactement, et en fait c'est à partir du moment où on a la matière première, donc le matériel et le savoir-faire, c'est là où on est gagnant,
tout à fait,
en vrai. Et nous le CA de l'association Startup, c'est entre des personnes très reconnues comme Madame Moulin en l'occurrence, et des jeunes actifs avec un savoir-faire. Par exemple, l'année dernière, on a rencontré Hugo. Hugo qui est un jeune, il a 28 ans. Et en fait, il est avocat de métier. Et à la base, il est venu en fait faire un service civique avec nous. Il a intégré le CA de l'association. Aujourd'hui, dès qu'on a un souci d'ordre juridique, ben, on n'a pas besoin de contacter un avocat qui va nous prendre 300 euros hors taxe pour une heure de conseil. Ça nous permet en fait de... On a étudié là où on ne peut pas se permettre de payer. Et on a travaillé en tout cas nos partenariats.
Plus, ce type de rencontre là avec cet avocat, ça vous permet d'avoir un avocat qui entend votre vision.
Exactement.
Qui voit, qui comprend votre positionnement.
C'est exactement
parce que
ça.
Quelqu'un que vous iriez payer, ben en fait, il voit juste sa facture. Et
tout simplement.
Il n'est pas forcément aligné à ce que vous voulez défendre.
Voilà, et c'est comme ça, par exemple, grâce à lui, on a pu rencontrer notre avocate qui est cette fois-ci spécialisée dans les naturalisations.
Ok.
Donc, on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas les papiers, on ne va pas se le mentir. Des fois, pareil, pour des situations administratives un peu floues. Des fois incompréhensibles, Par exemple, j'ai un jeune qui est né à Mayotte, qui a toute sa vie vécu du coup en France, mais qui n'est pas français. Et en fait, ça s'explique parce que le papa a déclaré le jeune aux Comores et qu'en fait, l'administration ne reconnaît pas l'enfant. Et la problématique que j'ai, c'est que c'est un jeune que j'accompagne sur un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire. Pour des raisons X ou Y, c'est quelqu'un qui, voilà, qui de par son intelligence, de par la personne que c'est malheureusement, qui peut être récupéré par la délinquance, par les réseaux, par tout ça. Et en fait, la problématique, elle est là. C'est que ce jeune, qu'est-ce que je fais pour lui ? Ben, j'ai pas les moyens de payer un juré. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, à part trouver des gens qui ont cette appétence un peu humaine, je dirais, c'est pas possible. C'est pas possible. Et on a beaucoup de jeunes qui sont dans des situations de ce genre. Et on était obligé de trouver une solution. Parce qu'en fait, même quand ils sont avec nous, on peut pas les accompagner. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue à un moment, et c'est pour ça que voilà, on essaye de créer en tout cas des situations favorables pour ces jeunes, quoi.
Très bien, c'est exemplaire, bravo.
Je voudrais juste prendre la parole sur la question des financements publics. Je pense que comité Maméga, comme nous au niveau de Passerelle ou autre, on a connu la grande période des financements relativement facilités, notamment toutes les premières périodes de la politique de la ville, etc., où tu avais un projet tous les jours, je dis toujours, on avait un projet par jour et on montait le projet au départ, on l'expérimentait, et après il y avait des financements, etc. Donc ça, on a connu ça, sans forcément avoir des postes de salariés, mais en tous les cas, sur...
Et est-ce que tu peux situer cette période dans le temps ?
Ah, moi, je dirais les années 80.
D'accord.
Les années 80, l'arrivée ici de la politique de la ville, qui était d'abord Habitat et Vie sociale. Très bien qu'on en fasse une émission un jour sur l'histoire de la politique de la ville, parce qu'il y en a aussi d'autres, certains qui sont vivants encore pour en parler. Toutes ces années d'expérimentation, c'était extraordinaire. La guinguette vient de là, la première mission locale en France vient de là, la maison des familles vient de là. Il y a énormément de choses qui ont émergé à ce moment-là et qui ont été financées parce qu'il y avait une écoute, une proximité déjà, avec tous les dispositifs d'intervention, les techniciens, et une écoute. Qui voulait. Bon, on peut critiquer cette période comme ayant pas fait l'objet d'évaluation, comme. Voilà, ça, c'est un des problèmes, ça a été celui-là. Mais on a aujourd'hui un discours amplifié qui stigmatise la jeunesse, qui discrimine, qui considère la jeunesse comme étant porteur de tous les maux, qui parle à propos de radicalisation, comme d'entrer dans les trafics, comme étant quelque chose qui est immuable, sans que l'État et les institutions se préoccupent réellement de ce qui se fait par rapport à la jeunesse. C'est-à-dire, au même moment qu'on a ce discours, on a une diminution, comme tu viens de le dire, de tous les financements et un désintérêt, je dirais plus qu'une diminution, un désintérêt des pouvoirs publics pour cette jeunesse-là. Et ça, c'est très très grave, parce que si on n'y fait pas attention petit à petit, on pourra toujours se poser des questions après de tous les meurtres qu'il y a aujourd'hui dans le trafic, des jeunes qui y sont, de la radicalisation, etc. Il est déjà bien tard, mais il faut que tout le monde ouvre les yeux et se réveille. Et quand j'entendais, à propos de l'assassinat de Mehdi Kessassi, les quartiers, il faut qu'ils se réveillent, je disais, mais attendez, vous croyez qu'on a attendu de se réveiller, nous ? Et vous, vous vous réveillez quand ? Voilà. Et c'est un vrai, vrai problème pour moi, ça, aujourd'hui. Je signale que toutes les associations se voient répondre par les financeurs, aller chercher des financements auprès des sponsors ou des financements privés. Aujourd'hui, c'est le discours quand même. Hein. C'est-à-dire que eux, ils l'ont anticipé.
Ben ouais, on a
avec leur propre,
qui nous suit, nous, cette année. C'est sans une marque, en vrai, aujourd'hui, ben ouais, c'est très compliqué de pouvoir réaliser nos actions. Parce qu'on n'a pas tous les financements. Les budgets ne font que se réduire. Au fur et à mesure des années, on le voit très clairement. C'est de moins en moins un objectif principal, du moins. Donc, sans certaines privées, c'est impossible aujourd'hui.
Alors, je voudrais juste compléter ce que disait Anne-Marie sur ces années 80. C'est vrai que quand on voit le financement qu'avait la Maison des Familles, c'était quand même assez impressionnant. Camp de ski, du matériel à disposition, des vélos, des chalets qu'il y avait même pour les familles dans les Alpes. C'était une période assez dorée, et il faut savoir qu'au niveau des compétences, le 14e arrondissement était le secteur de Marseille où il y avait le plus d'associations associations avec des projets créatifs, Sheba, Bodien Soul, la SQB, il y avait vraiment des associations, Comité Maméga, donc des associations très solides. Et à un moment donné, il faut savoir que nous avions plus de compétences en interne que les techniciens qui étaient en face de nous. Il y avait des DEA, il y avait des masters, il y avait des gens compétents. Les projets étaient forts, étaient puissants. Et New York, alors que on s'est autofinancé. C'est les jeunes qui ont payé, les animateurs, chacun a payé son billet d'avion. C'était quand même des choses exceptionnelles. À un moment donné, je pense qu'on a fait peur en face. On leur a fait peur parce qu'on était presque autonome au niveau de la gestion de notre quartier, de notre territoire.
Excuse-moi, quand je rebondis sur cette question de la peur, est-ce que vous pensez que vous avez fait peur d'un point de vue électoraliste ? Enfin, qu'est-ce qui a fait peur ?
Pas vraiment sur le plan électoral, mais il y avait des compétences et des connaissances et des analyses que nous avions, nous, à l'interne. Mais malheureusement, nous avons cette espèce de dépendance et de soumission par rapport aux politiques, puisqu'on était tributaires de leur financement. Il y a des situations que l'on pouvait dénoncer, mais on avait nos garde-fous. Moi, je faisais partie de ceux qui tapaient dans la boîte et de façon pas très soft. Et puis, on avait nos garde-fous, les Karim Aberich, les Anne-Marie, les Jean-Marc Aigard, pour nous dire non, ça, il faut pas le faire. Il était même question, au moment où on a fermé l'association Bodien Soul, de faire une grève de la faim pour attirer l'opinion publique sur la situation et l'abandon. Et ce que nous avons vécu, nous, Bodien Soul, au niveau de la fermeture en 2009, on avait dit, on est les premiers, on ne sera pas les derniers. Et effectivement, d'autres associations ont connu cette même situation. Et celles qui perdurent, comme le comité Maméga ou Sheba, ils font avec des bouts de ficelle. Ils survivent et c'est des situations intolérables. Maintenant, si le politique était vraiment volontaire pour pouvoir aider. D'ailleurs, on a parlé des réseaux, vu qu'il n'y a pas d'espace vide. Quand il y a un espace vide, il se remplit. On a laissé faire les premiers réseaux de deal parce que cela arrangeait bien. Ça se faisait dans les quartiers nord. Cela ne dérangeait pas. Mais quand ça a pris une proportion, comme on voit aujourd'hui, avec des sommes considérables et puis des drames, des assassinats dans nos quartiers 13e, 14e et 15e arrondissement, il faut se poser la question de pourquoi et de l'abandon de la part des politiques, parce que s'il y a vraiment un soutien, il faut qu'il y ait des moyens pour pouvoir faire de la prévention.
Juste, bonjour, permettez-moi d'intervenir, mais lorsque l'on parle de peur dans les années 80, il faut rappeler qu'il y avait des révoltes aussi dans les banlieues, notamment à Vaux-en-Velin, etc., dans tous les quartiers. C'est comme cela qu'il y a une réaction au niveau du gouvernement pour essayer de canaliser et surtout de contrôler la population des quartiers. Il y avait trop d'émeutes, trop de choses qui s'est déroulées à ce moment-là, et je pense que cela a été l'objet de création, de déclenchement aussi de la politique de la ville qui ont voulu effectivement essayer de canaliser toutes ces violences urbaines comme ils qualifiaient à l'époque ces mouvements de colère des jeunes des quartiers. Donc il y a eu ça débouché sur les fameux stages de Bedou et autres. À ce moment-là, ça enchaîne et jusqu'à présent, tous ces dispositifs ont quasiment disparu. Tu as eu raison d'évoquer aussi la mission locale qui était beaucoup plus populaire, plus proche de la population et habitants.
Du coup, avant la pause musicale, ça me fait penser à quelque chose, c'est que cette manière, pour rebondir à ce que tu viens de dire, cette manière dont les pouvoirs publics, l'État en général, cette manière qu'a les pouvoirs publics et l'État en général de répondre par des dispositifs à des mouvements qui leur font peur, j'ai l'impression que c'est des choses qu'on voit dans les quartiers populaires et c'est des choses aussi, je fais beaucoup le lien avec l'histoire des territoires d'outre-mer aussi, c'est quelque chose qui est, enfin c'est des mécanismes étatiques, des mécanismes institutionnels qui sont très similaires, je trouve. On va faire une pause musicale du coup, après la richesse et la densité de tous ces échanges. Pour revenir à toute cette histoire qu'on racontait de tout à l'heure, on va enchaîné avec Mistral de Sosomanes, qui commence avec en introduction Les Enfants des Quartiers Nord. Donc, ce qui est très beau, c'est que du coup, dans la chanson des Enfants des Quartiers Nord, il y a Issa, dont on parlait tout à l'heure, qui est le grand frère de Soso. Et donc, du coup, Mistral de Sosomanes.
Nous sommes des enfants des quartiers nord. Et mort n'attend pas que tu sois un homme bien. Sois un homme bien et attends la mort. J'ai gaspillé le temps au creux de ses mains. Mais avec le destin, personne joue la montre. J'ai vu des seringues dans le bac à sable, là où s'amusent tous les enfants. Le toxico, je l'ai pris à coups de serein. Puis j'ai compris que c'était à cause de moi. Oui, à cause de moi, parce que je vends la mort. Le matin, le soir, à des heures différentes. Aucun scrupule dans mes méfaits. J'en ai rien à foutre tant que le bif y rentre. Le jobber fume un tarte patate. Le civil nous insulte de macaque. Ça passe du QHS au HSE. Je déplie ce choix sur l'asphalte. Premier album, c'est rescapé. Je pose mes coronets sur la table. Quand je rapote, tu sens la vérité et l'authenticité de mes fables. Je vais pas pleurer sur notre précarité, mais montrer au monde qu'on est capable. Décider, inciter l'unité, comme mes trois grands frères du intouchable. Je reviens vous braquer, allez haut les mains. Je suis comme un croc sur la canne bière. Je vais rapper la rue et tous ses problèmes. De la bonne mère à la tour Eiffel. Des labos de la jungle amazonienne. Au pied un salut de nos HLM. Y'a des traces de pure sur les billets crème.
Et dans la puce, l'église pour le week-end.
C'est sur Arsenal que je suis endetté. J'ai dit les volets, j'étais rapta. Avec Chétan, on a trinqué. Maintenant je décuve mon vécu et pleure quand ça va pas. J'ai trop vu de larmes le soir à l'hôpital. Trop vu de blagues sur les pierres tombales. Cette année le vent va tourner pour mes frères. C'est pour ça que cet album s'appelle Mistral. Et je fais le tour, je repense à tout ce parti là-haut. Je vous le dis bientôt, c'est moi qui fais la météo. Fuck les rivaux, tu penses je rigole mais crois-moi je suis tellement triste. La vie d'artiste, je veux pas du succès. Si c'est pour finir comme toi égoïste.
On est de retour, les discussions et les échanges n'avaient pas arrêté. Alors moi j'ai une question à poser. Oui, bah est-ce que déjà tu veux raconter un petit peu ton histoire au sein de Startup ?
Au sein de Startup, bah, ça fait déjà un an et demi que je suis là, le temps passe très vite. J'ai une expérience qui de 10 ans dans l'animation. Je suis passé par tous les âges. Je pensais avoir à peu près tout vu. En arrivant ici, j'ai vu que la réalité du terrain dans les plus petites structures et les quartiers qui sont vraiment au cœur des problèmes est complètement différente de ce que je pensais. J'ai dû réagir à des situations que je ne pouvais même pas imaginer avant. J'ai vu des enfants dans des détresses que je ne connaissais pas avant. Et écoutez, ça m'a beaucoup fait grandir. J'ai essayé de leur apporter beaucoup de choses. Ils m'en ont apporté bien plus. Et aujourd'hui, on essaye de monter des projets pour eux avant tout, qui les font grandir, qui, disons, aussi pour les faire mûrir et les mettre en valeur eux, et qu'ils comprennent que c'est eux le futur. Voilà. J'ai beaucoup digressé, désolé. Je suis parti de moi et je suis arrivé sur les gosses.
T'inquiète pas. Est-ce que tu as un souvenir, un projet en particulier qui t'a particulièrement marqué, qui t'a particulièrement touché, ou en tout cas que tu as particulièrement envie de communiquer là?
Des projets en particulier, y en a eu pas mal, mais un de ceux qui m'a touché, ça a été un projet où on a monté un court-métrage. Au début, les jeunes n'étaient pas très chauds de passer devant la caméra, très pudiques, ils ne voulaient pas de raconter leurs propres histoires. Et très vite, suite à une histoire qui date d'il y a 2 ans, je crois maintenant, qui a suivi du harcèlement, très vite cette idée est remontée et ils ont voulu, ils ont voulu en parler. On a fait le court-métrage. Du coup on a été récompensé pour ce court-métrage et pour l'idée et surtout pour le message que ça véhicule. parce qu'on a trop l'habitude de... On en parle plus du harcèlement aujourd'hui, mais il passe très vite sous les radars parce que, je ne sais pas, il n'est pas, pas assez bien suivi par certaines personnes, pas assez vite détecté. Mais du coup, ça, c'est un projet qui m'a tenu à cœur.
Mmh. Ouais. Très bien. Et puis, on aime bien parler des phénomènes, mais vraiment des rouages et des fondations de ces phénomènes-là. C'est, oui, on se préoccupe du harcèlement, mais qu'est-ce qui l'entraîne, quels mécanismes, quelles violences sont reproduites dans les harcèlements.
C'est vraiment
abordé en profondeur. Et on, voilà, c'est...
J'ai un dicton que je dis souvent, c'est « il n'existe pas d'enfant mauvais ».
Tout à fait.
C'est impossible. Par contre, un enfant qui reproduit ce qu'il voit ou qui se sent mal dans sa peau, il peut réagir violemment, oui.
Alors juste une petite transition, merci Adem pour ce témoignage. On a eu donc la mémoire de passerelle, on a eu donc le projet avec Startup, l'animateur donc Adem, et nous avons aussi donc le témoignage des jeunes que l'on pourrait peut-être écouter. Alors, toi tu t'appelles comment? Toi quel âge?
Moi je m'appelle Amine, j'ai 21 ans,
ouais.
Ça va faire un mois que je suis au local.
Quelle formation tu as?
Alors moi actuellement je suis au lycée.
Au lycée,
donc,
d'accord.
Ça me permet de continuer l'école et en même temps d'avoir un petit revenu et de jouer avec les enfants et d'aider dans l'association.
D'accord.
Là-bas c'est un local, ça s'appelle local de la passerelle, et il vient de l'association Startup. Et on essaye d'aider les enfants. Bon, aujourd'hui c'était une journée spéciale, on est sorti au parc, on a un petit peu joué, etc. Juste avant ça on a fait les devoirs et là on allait passer au goûter.
Je vous remercie enfin pour ces informations. Vous aurez un retour de l'émission de radio où... Alors bonjour, nous sommes mercredi et nous sommes donc avec l'association Passerelle qui se trouve à deux pas du comité Maméga. Donc on a là quatre jeunes donc, qui font partie de l'association. Tu t'appelles comment ? Et tu as quel âge ?
J'ai 12 ans.
Tu viens de quel quartier ?
De la Cerisée.
La Cerisée. Et toi ?
Je m'appelle Maïlis et j'ai 11 ans et je viens du Mali.
Je m'appelle Rami, j'ai 13 ans et je viens des Iris.
Et je m'appelle Sarah, j'ai 11 ans et je viens du Merlin Village.
De ?
Merlin Village.
Merlin Village. Donc, en fait, ils sont tous du 14e arrondissement, aux alentours du comité Maméga. Alors, qui peut me dire qui est là depuis, qui est le plus ancien, vraisemblablement? C'est toi. Et toi, c'est Lénie, hein?
Non, moi, c'est Rami.
Rami. Et tu as donc, tu es à Passerelle depuis combien de temps?
Depuis 2 ans. Oui.
Depuis 2 ans. Et pourquoi tu es, comment tu as connu Passerelle et qu'est-ce qui t'a amené à Passerelle?
J'ai connu Passerelle grâce à mon pote Djihad qui m'a permis de découvrir cet endroit.
Il y a 2 ans?
Ouais, il y a 2 ans. Voilà. On était dans la même classe.
D'accord. Et qu'est-ce que vous faites à Passerelle? Quelles sont les activités que vous faites? Tu veux répondre?
Oui. Alors, des fois, on fait du garou, ou soit on va au parc, ou soit au stade, on joue à des jeux, on fait du foot, ou du basket, ou sinon, des couleurs.
Basket? Des activités sportives?
Oui.
Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans Passerelle?
Moi, ça me plaît car on fait beaucoup de sorties, on fait beaucoup d'activités sportives et au moins comme ça, on peut faire des choses le mercredi après-midi si on n'a rien à faire.
Vous veniez qu'une fois par semaine?
C'est exact.
Toi, tu as connu Passerelle comment?
C'est Madame Mouillard qui m'a dit que je pouvais y aller si j'en avais envie. Elle m'a donné un papier à remplir et je l'ai rempli et je lui ai rendu.
Et Madame Moulin, tu l'as rencontrée où?
Au collège.
Au collège. Quel collège?
Édouard Manet, celui-là d'à côté.
Édouard Manet. Alors, est-ce que vous pensez que Passerelle correspond à vos attentes? Est-ce que les propositions de Passerelle vous conviennent?
Oui.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus au niveau de Passerelle?
Les sorties. On a fait des sorties au cinéma pendant les vacances. C'est bien car les animateurs sont présents, ils sont gentils, on s'amuse avec eux, ils sont très drôles. Voilà, il y a tout ce qu'il faut.
Mm-hmm.
Non, c'est quand on va à la patinoire, au cinéma et quand on joue au capot.
Moi, je kiffe quand on part au parc, on s'amuse entre potes, quoi.
D'accord. Et est-ce qu'au parc, tu pourrais y aller seul? Qu'est-ce qui est différent quand tu vas au parc avec Passerelle?
C'est que là-bas, il y a aussi d'autres personnes avec qui je peux m'amuser, comme les animateurs. J'ai plus de sécurité grâce aux animateurs et il y a des ballons et des autres.
Il y a un encadrement, quoi. Tu te sens en sécurité et il vous propose aussi du matériel.
Ouais.
Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus qui n'a pas été dit? Ou qui te convient à toi? Qu'est-ce qui te plaît au niveau de Passerelle?
Les sorties, les activités.
Mmh.
Et par exemple, là, tout à l'heure, on est allé au parc pour jouer à un jeu. Ben, c'est cool. J'aime bien.
D'accord. Et les animateurs, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à Passerelle? Quel est l'objet de Passerelle?
Ben, en fait, Passerelle, c'est un local.
Oui.
Et je ne suis pas à l'aise à tuer, en fait. Là, c'est pour ça. J'aime pas trop, en fait. C'est pour ça.
Je coupe la carte.
Poursuivons avec les échos du Grand Saint-Barthélemy sur les ondes de Radio Galère avec nos invités, notamment l'asso Startup. Alors, une question en ressort. Que pensez-vous des interventions de ces enfants?
Que vous connaissez.
Oui. Que vous connaissez.
Très bien. Oui, elles sont pas mal. Disons qu'elles ne sont pas non plus complètement représentatives de ce que l'on fait. Parce qu'ils ne sont pas au courant aussi de l'envers du décor et du pourquoi, du comment on monte cette animation et pas une autre, cette sortie et pas une autre. Mais dans l'ensemble, c'est ce style d'enfant que l'on a, des jeunes, la plupart ont entre 10 et 15 ans, qu'ils ont besoin d'un refuge ou autre, et qui viennent nous voir et on les accueille les bras grands ouverts.
D'accord, 60 ans. Ouais. Et que voulez-vous préserver de Passerelle? Qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas perdre?
Ce côté social et éducation populaire. Dans le sens où nous sommes OK des adultes responsables qui avons la responsabilité d'enfants, mais pour ma part, je ne me considère pas comme déteneur du savoir ultime. Je ne suis pas là à exposer ma science et voilà, ils m'écoutent, ils n'ont pas le choix. Ils m'apprennent, j'en apprends d'eux tous les jours. Et c'est quand même ça le but en fait, de notre association, c'est de nous pousser vers le haut. Chacun à sa manière, chacun a des capacités que d'autres n'ont pas. Donc pour moi, oui, l'éducation populaire, c'est
l'échange qui enrichit, quoi.
Oui.
Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, on a quelque chose d'assez spécial à la Passerelle, c'est que ne s'apprécie pas forcément en dehors de la Passerelle. Mm-hmm. C'est pas forcément les meilleurs amis du monde.
Hein.
Par contre, ça se passe tout le temps super.
Pardon, excusez-moi.
Super bien avec ces jeunes. Ah, on a des jeunes des fois même, pas vous le cacher, je pense que les jeunes de cet âge-là ne se rendent pas compte ce que veut dire harcèlement. Et en fait, j'ai des jeunes harcelés qui passent la journée avec des jeunes harceleurs et qui s'amusent et qui depuis, il y a plus. Par exemple, j'avais une petite qui s'appelait Emma qui se faisait embêter pour tout et rien. Principalement, elle se faisait embêter par des filles que j'avais moi à la Passerelle. D'un commun accord avec les parents, on a intégré Emma à la Passerelle. Aujourd'hui. Les petites que j'ai qui l'embêtaient, aujourd'hui, elles n'acceptent même plus qu'Emma se fasse embêter au collège. Donc, en fait, voilà, il y a ce truc où je pense qu'ils ont, ils sont pas méchants, ils connaissent pas juste les limites de certaines choses, et j'apprécie beaucoup ce relationnel qu'il y a dans la Passerelle, en fait, entre les jeunes.
D'accord. Et enfin, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes du Grand Saint-Barthélemy, à celles qui nous écoutent?
Je dirais que c'est vous l'avenir de la France, quoi qu'on dise.
Oula, c'est bien dit.
Message particulier. Acceptez-vous comme vous êtes, avancez, c'est le plus important.
Es-tu fier de transmission?
Alors, je suis contente de l'émission d'aujourd'hui, figure-toi, parce que je me rends compte, mais je n'avais pas trop besoin d'avoir la preuve, mais quand même, à travers leur discours, à Adem et à son collègue, qu'on porte les mêmes valeurs et que tout ce qui a été véhiculé par Passerelle au départ, vous venez de le dire, c'est quand même la question d'être accueilli, d'être entendu, d'être connu. Et qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus à Passerelle. D'ailleurs, c'est assez amusant qu'ils continuent à dire Passerelle. Oui. Parce qu'un jour, je disais à Aurélie, est-ce qu'ils continuent à dire Passerelle, les minots qui viennent? Parce que pour eux, c'est Startup qui fait non, l'action. C'est Passerelle. Et ça, je trouve ça génial. C'est la Passerelle. Voilà. Et bon, voilà, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et quand je pense vraiment que ce dont les ados et les enfants aujourd'hui ont vraiment besoin, c'est la question de la reconnaissance, de l'appartenance, de ne pas être obligé de se construire une identité autrement qu'en étant reconnu par les autres. Et s'ils trouvent ça, ils continuent à trouver ça à travers une action culturelle et une accueil, une écoute à Passerelle, moi je suis ravie. Je suis en train de me demander si finalement on ne va pas continuer à garder l'allocation des locaux et vous les mettre à disposition. Non, en fait, c'est une vraie réflexion, quoi. Voilà. Vous disiez tout à l'heure, on n'a pas besoin de charges de fonctionnement. Alors, je ne suis pas HMP, hein, mais du coup, c'est aujourd'hui l'association pour la promotion de Passerelle qui continue à assurer les charges de fonctionnement du local, qui ne sont pas énormes, hein, mais qui existent quand même, et qui viennent gréver un budget. Quand il n'y a pas de budget de fonctionnement, la question continue à se poser. Quoi, voilà. Donc, il faut qu'on travaille ensemble sur ça. Quoi. À partir du moment où on ne s'éloigne pas sur les valeurs et sur ce qu'on veut y faire, je trouve que voilà, c'est quelque chose à travailler.
Exactement, parfait. Je suis bien
et peut-être à développer des partenariats entre le collectif jeune et start-up, peut-être un peu plus.
On en a déjà un petit peu, mais c'est vrai qu'on pourrait plus.
Ouais. Ouais. Et parce que vous vous connaissez individuellement.
Exactement.
Avec le comité aussi à réfléchir.
C'est un bon message d'espoir que vous avez diffusé là. Et sans doute à communiquer à des dirigeants, etc., etc., et à mettre en application surtout. Voilà. Nous arrivons au terme de cette émission des Échos avec nos invités. Un immense merci à eux. Parce qu'au fond, dans nos quartiers, on le sait bien, les associations, c'est même plus que les structures. Ce sont des mains tendues, c'est ce qu'on disait, des portes ouvertes, des regards qui disent « tu comptes, tu vaux quelque chose, on est là pour toi ». En fait, c'est une certaine forme de reconnaissance. Et la reconnaissance entraîne la responsabilité. Hein, donc ça va de... Et ce passage de relais entre Passerelle et start-up montre une chose, que la chaîne ne se casse pas, elle se renforce. Mais c'est aux jeunes qui arrivent de la renforcer et d'apporter... Comme tu disais tout à l'heure, l'échange, c'est-à-dire c'est un échange gagnant-gagnant.
Exact. Hein,
que... Voilà. Donc, musique.
Juste.
Tu es un peu la musique.
Oui, je sais bien. Je parle trop, mais ça fait rien. Donc, déjà, je remercie Anne-Marie pour nous avoir fait. Nous avoir permis cette rencontre avec Startup. Moi, je pensais que c'était une association qui faisait de l'animation comme tant d'autres, comme il en existe tant d'autres. Mais je n'avais pas. Je ne méconnaissais le projet de cette structure. Et je dois dire que pour moi, c'est un exemple à suivre. Et qui devrait se développer non seulement à Marseille, mais dans beaucoup de quartiers. Ils ont tout compris, ce lien entre l'entreprise et le social, cette indépendance, cette autonomie de fonctionnement par rapport aux politiques, ça me paraît essentiel et ça nous permettrait peut-être de relever la tête et de dire, voilà, on n'est pas des mendiants et on n'attend pas la béquée. On sait faire aussi. Nous, on savait faire, mais malheureusement, nous demandions des subventions. Voilà.
Et pour revenir à juste cette question-là de la coordination entre le social et l'entreprise, en vrai, ça se fait, c'est juste que c'est rarement fait avec autant de cohérence. J'ai déjà vu des projets qui essayent d'allier les deux, et c'est rarement fait avec autant de cohérence et de vision, en fait. Et donc, je pense que ça, c'est un aspect que j'aurais bien aimé aborder, qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder. Mais du coup, ça implique aussi des questions de gouvernance interne assez conséquentes. Voilà, ça sera peut-être l'objet d'un autre échange à un autre moment donné. Avant la pause musicale, je pense que ça mérite que vous applaudissiez tous et qu'on ça.
Merci beaucoup.
Et on continue du coup pause musicale avec Ma philosophie de Amel Bent.
Je n'ai qu'une philosophie, elle être acceptée comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le poing levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là, je suis pas le roi. Et nos peines, nos différences, et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing. Encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, qui a appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire. Le poing levé vers l'avenir, lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là, ce qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé.
Ma philosophie de Amel Bent, un titre qui reflète bien toutes les thématiques que nous avons traitées aujourd'hui. Dernière partie avec les communiqués. Centre social Saint-Barthélemy, ex-MFA, fermeture du 24 décembre au 3 janvier 2025. 28 novembre, soirée blind test karaoké à partir de 19h. 5 décembre, soirée loto à partir de 19h. 16 décembre, fermeture exceptionnelle du centre social. 22 décembre et 23 décembre, deux jours de fête organisés sur les deux centres sociaux, Agora et MFA, avec entre autres un spectacle de marionnettes le 22 décembre à 14h, des ateliers et la distribution d'un goûter de Noël le 23 décembre après-midi. Tous les mardis après-midi à partir de 17h jusqu'à 19h, atelier pétanque. Tous les mercredis après-midi dès 14h30, cours de breakdance et de théâtre à partir de 6 ans. Espace culturel Busserine, mardi 2 décembre 20h, Comédie Club. Une fois par mois, les humoristes se relaient sur le plateau de l'ECB avec une seule mission, vous faire rire. Mercredi 10 décembre 14h40 et jeudi 11 décembre 9h40 et 14h40, festival Tout Son Son. Hall 2000 est un spectacle musical mêlant chansons et musique pop électronique, composé par Vincent 2000 accompagné d'un batteur à travers le regard singulier d'une intelligence artificielle. Le ZEF, scène nationale de Marseille, réservation par téléphone, du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi en cas de spectacle week-end de 14h à 18h au 06 27 49 56 17. Du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2025, théâtre Jamais Dormir. Du mardi 25 au vendredi 13 février 2026, expo L'œil noir de Johan Lamoulaire. Le jeudi 27 novembre 2025 à 20h, soirée Colline formation professionnelle du danseur-interprète. Du samedi 29 novembre 2025 au mardi 5 mai 2026, musique. Le vendredi 5 décembre 2025 à 20h, musique avec la bande. Du mercredi 10 au jeudi 11 décembre 2025, danse. Théâtre avec notre ami Mohamed Hadi, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le spectacle, un français pas comme les autres, joué le jeudi 4 décembre à 19h30 à l'Harmonie de l'Estac. Attention, le nombre de places est limité, il vaut mieux réserver avant de venir au 07 46 27 58 06 par SMS. Avant de refermer notre fenêtre radiophonique sur le Grand Saint-Barthélemy, nous rappelons que les échos ne pourraient avoir lieu sans le soutien de la politique de la ville portée par l'État et la métropole. Merci à Sidi, à Guy, à nos invités et à vos auditeurs de la radio qui rament toujours à contre-courant, Radio Galère. Belle, le 13 décembre 2025, par la chorale Gospel Time Marseille, à l'église Saint-Vincent-de-Paul, de cour Franklin Roosevelt, 13001 Marseille. C'est l'église de réformée, d'accord, très bien, j'avais pas fait le lien. Et avant de fermer notre fenêtre radiophonique sur le Grand Saint-Barthélemy, nous rappelons que les échos ne poussent, on l'a dit. Donc merci à Sidi, à Guy, à nos invités, à vos auditeurs de la radio qui rament toujours à contre-courant. Comme nous avons débuté les échos, nous le refermons sur une page musicale. Don't Worry de Bob Marley, Every Little Thing Is Gonna Be Alright, qui est un choix parfait pour une chanson d'accompagnement des familles, notamment la famille de Mehdi Kessassi, car elle offre un message d'espoir, de résilience et de réconfort en période.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head.